Germaine de Staël, Delphine. Lettres 31 à 38 comprises. Lettre 31. Léonce à sa mère. Mondeville, 6 juillet 1790. Je suis dans cette terre où vous avez passé les plus heureuses années de votre mariage. C'est ici, mon excellente mère, que vous avez élevé mon enfance. Tous ces lieux sont remplis de mes plus doux souvenirs, et je retrouve en les voyant cette confiance dans l'avenir, bonheur des premiers temps de la vie. J'y ressens aussi mon affection pour vous avec une nouvelle force. Cette affection de choix que mon cœur vous accorderait quand le devoir le plus sacré ne me l'imposerait pas. Vous me connaissez d'autant mieux qu'à beaucoup d'égards je vous ressemble. Fixez donc, je vous en conjure, toute votre attention et tout votre intérêt sur la demande que je vais vous faire. Je puis être malheureux de beaucoup de manières. Mon âme irritable est accessible à des peines de tout genre. Mais il n'existe pour moi qu'une seule source de bonheur, et je n'en goûterai point sur la terre si je n'ai pas, pour femme, un être que j'aime et dont l'esprit intéresse le mien. Ce n'est point le rapide enthousiasme d'un jeune homme pour une jolie femme que je prends pour l'attachement nécessaire à toute ma vie. Vous savez que la réflexion se mêle toujours à mes sentiments les plus passionnés. Je suis profondément amoureux de Madame d'Albémare, mais je n'en suis pas moins certain que c'est la raison qui me guide dans le choix que j'ai fait d'elle pour lui confier ma destinée. Mademoiselle de Vernon est une personne belle, sage et raisonnable. Je suis convaincue qu'elle ne donnera jamais à son époux aucun sujet de plainte et que sa conduite sera conforme aux principes les plus réguliers. Mais est-ce l'absence des peines que je cherche dans le mariage? Je ferai tout aussi bien alors de rester libre. D'ailleurs, je n'atteindrai pas même à ce but en me résignant à l'union que l'on me propose. Que ferai-je de l'âme et de l'esprit que j'ai avec une femme d'une nature tout à fait différente? N'avez-vous pas souvent remarqué dans la vie combien les gens médiocres et les personnes distinguées s'accordent mal ensemble? Les esprits tout à fait vulgaires s'arrangent beaucoup mieux avec les esprits supérieurs. Mais la médiocrité ne suppose rien au-delà de sa propre intelligence et regarde comme folie tout ce qui la dépasse. Mademoiselle de Vernon a déjà un caractère et un esprit arrêtés qui ne peuvent plus ni se modifier ni se changer. Elle a des raisonnements pour tout et les pensées des autres ne pénètrent jamais dans sa tête. Elle oppose constamment une idée commune à toute idée nouvelle et croit en avoir triomphé. Quel plaisir la conversation pourrait-elle donner avec une telle femme? Et l'un des premiers bonheurs de la vie intime n'est-il pas de s'entendre et de se répondre? Que de mouvements, que de réflexions, que de pensées, que d'observations ne me serait-il pas impossible de communiquer à Mathilde? Et que ferais-je de tout ce que je ne pourrais pas lui confier, de cette moitié de ma vie à laquelle je ne pourrais jamais l'associer? Ah, ma mère, je serai seule, pour jamais seule, avec toute autre femme que Delphine. Et c'est une douleur toujours plus amère avec le temps que cette solitude de l'esprit et du cœur à côté de l'objet qui, vers la fin de la vie, doit être votre unique bien. Je ne supporterai point une telle situation. J'irai chercher ailleurs cette société parfaite, cette harmonie des âmes dont jamais l'homme ne peut se passer. Et quand je serai vieux, je rapporterai mes tristes jours à celle à qui je n'aurais pu donner un doux souvenir de mes jeunes années. Quel avenir, ma mère, pouvez-vous y condamner votre fils, quand le hasard le plus favorable lui présente l'objet qui ferait le bonheur de toutes les époques de sa vie, la plus belle des femmes, et cependant celle qui, dépouillée de tous les agréments de la jeunesse, posséderait encore les trésors du temps, la douceur, l'esprit et la bonté. Vous avez donné, par une éducation forte, une grande activité à mes vertus comme à mes défauts. Pensez-vous qu'un tel caractère soit facile à rendre heureux? Si vous eussiez pris des engagements indissolubles, des engagements consacrés par l'honneur, c'en était fait, j'immolais ma vie à votre parole. Mais sans doute votre consentement n'avait point un semblable caractère, puisque vous ne m'avez jamais fait cette objection en réponse à 10 lettres qui vous interrogeaient à cet égard. Vous ne m'avez parlé que des injustes préventions qu'on vous a données contre Madame d'Albémare. On vous a dit qu'elle était légère, imprudente, coquette, philosophe. Tout ce qui vous déplaît en tout genre, on l'a réuni sur Delphine. Ne pouvez-vous donc pas, ma mère, en croire votre fils autant que Madame du Marsay? Delphine a été élevée dans la solitude, par des personnes qui n'avaient point la connaissance du monde et dont l'esprit était cependant fort éclairé. Elle ne vit à Paris que depuis 1 an et n'a point appris à se défier des jugements des hommes. Elle croit que la morale suffit à tout et qu'il faut dédaigner les préjugés reçus, les convenances admises, quand la vertu n'y est point intéressée. Mais le soin de mon bonheur la corrigera de ce défaut, car ce qu'elle est avant tout, c'est bonne et sensible, elle-même. Que n'obtiendrai-je donc pas d'elle, et pour vous, et pour moi? On vous a parlé de la supériorité de son esprit, et, comme à ma prière, vous avez consenti à venir vivre chez moi l'année prochaine, vous craignez de rencontrer dans votre belle-fille un caractère despotique. Mathilde, dont l'esprit est borné, a des volontés positives sur les plus petites circonstances de la vie domestique. Delphine n'a que 2 intérêts au monde. Le sentiment et la pensée. Elle est sans désir comme sans avis sur les détails journaliers et s'abandonne avec joie à tous les goûts des autres. Elle n'attache du prix qu'à plaire et à être aimée. Vous serez l'objet continuel de ses soins les plus assidus. Je la vois avec Madame de Vernon. Jamais l'amour filial, l'amitié complaisante et dévouée ne pourrait inspirer une conduite plus aimable. Ah, ma mère, c'est votre bonheur autant que le mien que j'assure en épousant Madame d'Albémare. Vous n'avez pas réfléchi combien vous auriez de peine à ménager l'amour-propre d'une personne médiocre. Tout est si doux, tout est si facile avec un être vraiment supérieur. Les opinions même de Delphine sont 1000 fois plus aisées à modifier que celles de Mathilde. Delphine ne peut jamais craindre d'être humiliée. Delphine ne peut jamais éprouver les inquiétudes de la vanité. Son esprit est prêt à reconnaître une erreur, accoutumé qu'il est à découvrir tant de vérités nouvelles, et son cœur se plaît à céder aux lumières de ceux qu'elle aime. On vous a dit encore, j'ai honte de l'écrire, qu'elle était fausse et dissimulée, que j'ignorais sa vie passée et ses affections présentes. Sa vie passée, tout le monde la sait. Ses affections présentes, que vous a-t-on mandé sur Monsieur de Serbellane? Pourquoi me le nommez-vous? Non, Delphine ne m'a rien caché. Delphine fausse, dissimulée. Si cela pouvait être vrai, son caractère serait le plus méprisable de tous, car elle profanerait indignement les plus beaux dons que la nature ait jamais faits pour entraîner et convaincre. Enfin, j'oserais vous le dire, sans porter atteinte au respect profond que j'aime à vous consacrer, je suis résolue à épouser Madame d'Albémare, à moins que vous ne me prouviez qu'une loi de l'honneur s'y oppose. Le sacrifice que je ferai alors serait bientôt suivi de celui de ma vie. L'honneur peut l'exiger, Mais vous, ma mère, seriez-vous heureuse à ce prix? Lettre 32. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Bellerive, ce 6 juillet. Ma chère sœur, j'étais sans doute avertie par quelque pressentiment du ciel lorsque j'éprouvais un si grand effroi de la journée d'hier. Oh, de quel événement ma fatale complaisance est la première cause! J'éprouve autant de remords que si j'étais coupable, et je n'échappe à ces réflexions que par une douleur plus vive encore, par le spectacle du désespoir de Thérèse. Et Léonce, Léonce, juste ciel, quelle impression recevra-t-il de mon imprudente conduite? Ma Louise, je me dis à chaque instant que, si vous aviez été près de moi, aucun de ces malheurs ne me serait arrivé. Mais la bonté, mais la pitié naturelle à mon caractère m'égare loin d'un guide qui saurait joindre à ses qualités une raison plus ferme que la mienne. Hier, à 2 heures de l'après-midi, M. Dervin alla dîner à Saint-Germain, chez un de ses amis, se croyant assuré du départ de M. de Serbellane. Madame Dervin arriva chez moi vers 5 heures, seule, à pied, dans un état déplorable. Et peu de moments après, M. de Serbellane vint très secrètement pour lui dire un adieu, qui sera plus long, hélas, qu'il ne l'imaginait alors. Ma porte était défendue pour tout le monde, et pour M. Dervin en particulier. On disait chez moi que j'étais partie pour Bellerive, et tous mes volets fermés du côté de la cour servaient à le persuader. Je fus témoin pendant 3 heures de la douleur la plus déchirante. Je versais beaucoup de larmes avec Thérèse, et j'étais déjà bien abattue lorsque la plus terrible épreuve tomba sur moi. Au moment où j'avais obtenu de Thérèse et de M. de Serbellane qu'ils se séparassent, un de mes gens entra et me dit qu'un domestique de Mme de Vernon m'apportait un billet d'elle et demandait à me parler. Je sors et je vois, jugé de ma terreur, je vois M. Dervin. Il était déjà dans la chambre voisine et, se débarrassant d'une redingote à la livrée des gens de Mme de Vernon, dont il s'était revêtu pour se déguiser, il s'avance tout à coup malgré mes efforts, se précipite sur la porte de mon salon, l'ouvre et trouve M. de Serbellane à genoux devant Thérèse, la tête baissée sur sa main. Thérèse reconnaît son mari la première et tombe sans connaissance sur le plancher. M. de Serbellane la relève dans ses bras avant d'avoir encore aperçu M. Dervin. Et, croyant que la douleur des adieux était la seule cause de l'état où il voyait Thérèse, M. Dervin arrache sa femme des bras de son amant et la jette sur une chaise en l'abandonnant à mes secours. Il se retourne ensuite vers M. de Serbellane et tire son épée, sans remarquer que son adversaire n'en avait pas. Les crimes qui m'échappèrent attirèrent mes gens. M. de Serbellane leur ordonna de s'éloigner et, s'adressant à M. Dervin, il lui dit « Vous devez croire à Mme Dervin, monsieur, des torts qu'elle n'a pas. Je la quittais, je la priais de recevoir mes adieux. » M. Dervin, alors, entra dans une colère dont les expressions étaient à la fois insolente, ignoble et furieuse. À travers tous ces discours, on voyait cependant la plus ferme résolution de se battre avec M. de Serbellane. J'essayais de persuader à M. Dervin que cette scène pourrait être ignorée de tout le monde. Mais je compris par ses réponses une partie de ce que j'ai su depuis avec détail. C'est que M. de Fierville avait tout dit, et que cette raison, plus qu'aucune autre encore, animait le courage de M. Dervin. M. de Serbellane souffrait de la manière la plus cruelle. Je voyais sur son visage le combat de toutes les passions généreuses et fières. Il était immobile devant une fenêtre, mordant ses lèvres écoutant en silence les folles provocations de M. Dervin et regardant seulement quelquefois le visage pâle et mourant de Thérèse, comme s'il avait besoin de trouver, dans ce spectacle, des motifs pour se contenir. Il me vint dans l'esprit, après avoir tout épuisé pour calmer M. Dervin, de détourner sa colère sur moi, et j'essayai de lui dire que c'était moi qui avais engagé Mme Dervin à venir. Je commençais à peine ces mots que, se rappelant ce qu'il avait oublié, c'est que le rendez-vous s'était donné dans ma maison. Il se permit sur ma conduite les réflexions les plus insultantes. M. de Serbellane alors ne se contint plus, et, saisissant la main de M. Dervin, il lui dit « C'en est assez, monsieur, c'en est assez. Vous n'aurez plus affaire qu'à moi, et je vous satisferai. » Thérèse revint à elle dans ce moment. Quelle scène pour elle, grand Dieu! Une épée nue, la fureur qui se peignait dans les regards de son amant et de son mari, lui apprirent bientôt de quel événement elle était menacée. Elle se jeta aux pieds de M. Dervin pour l'implorer. Alors, soit que prêt à se battre il éprouva un ressentiment plus âpre encore contre elle qui en était la cause, soit qu'il fût dans son caractère de se plaire dans les menaces, il lui déclara qu'elle devait s'attendre au plus cruel traitement, qu'il lui retirerait sa fille, qu'il l'enfermerait dans une terre pour le reste de ses jours, et que l'univers entier connaîtrait sa honte, puisqu'il allait s'en laver lui-même dans le sang de son amant. À ces atroces discours, M. de Serbellane fut saisi d'une colère telle que je frémis encore en me la rappelant. Ses lèvres étaient pâles et tremblantes, son visage n'avait plus qu'une expression convulsive. Il me dit à voix basse, en s'approchant de moi, « Voyez-vous cet homme? Il est mort. Il vient de se condamner. Je perdrai Thérèse pour toujours, mais je la laisserai libre, et je lui conserverai sa fille. » À ces mots, avec une action plus prompte que le regard, il prit M. Dervin par le bras et sortit. Thérèse et moi, nous les suivîmes tous les deux. Ils étaient déjà dans la rue. Thérèse, en se précipitant sur l'escalier, tomba de quelques marches. Je la relevai, j'aidai à la reporter sur mon lit, et je chargeai Antoine, le valet de chambre intelligent que vous m'avez donné, de rejoindre M. Dervin et M. de Serbellane, et de nous rapporter à l'instant ce qui se serait passé. Je tins serré dans mes bras, pendant cette cruelle incertitude, la malheureuse Thérèse, qui n'avait qu'une idée, qui ne craignait au monde que le danger de M. de Serbellane. Antoine revint enfin, et nous apprit que, dans le fatal combat, M. Dervin avait été tué sur la place. Thérèse, en l'apprenant, se jeta à genoux et s'écria « Mon Dieu, ne condamnez pas aux peines éternelles la criminelle Thérèse. Accordez-lui les bienfaits de la pénitence. Sa vie ne sera plus qu'une expiation sévère. Ses derniers jours seront consacrés à mériter votre miséricorde. » En effet, depuis ce moment, toutes ses idées semblent changer. Le repentir et la dévotion se sont emparés de son esprit troublé. Elle ne s'est pas permis de me prononcer une seule fois le nom de son amant. Antoine, après nous avoir dit l'affreuse issue du combat, nous apprit qu'il avait eu lieu dans les Champs-Élysées, presque devant le jardin de Madame de Vernon. Lorsque M. Dervin fut tombé, M. de Serbellane vit Antoine et l'appela. Il le chargea de me dire, n'osant pas prononcer le nom de Thérèse, qu'après un tel événement, il était obligé de partir, à l'instant même, pour Lisbonne, mais qu'il m'écrirait dès qu'il y serait arrivé. Ces derniers mots furent entendus de quelques personnes qui s'étaient rassemblées autour du corps de M. Dervin, et mon nom seul fut répété dans la foule. Antoine, appelé comme témoin par la justice, ne déposera rien qui puisse compromettre Thérèse, et mon nom seul, s'il le faut, sera prononcé. J'espère donc que je sauverai à Thérèse l'horrible malheur de passer pour la cause de la mort de son mari. M. Dervin a un frère méchant et dur, qui serait capable, pour enlever à Thérèse sa fille et la direction de sa fortune, de l'accuser publiquement d'avoir excité son amant au meurtre de son mari. Thérèse me fit part de ses craintes dont Isaure seul était l'objet. Nous convînmes ensemble que nous ferions dire partout qu'une querelle politique, que je n'avais pu réussir à calmer, était la cause de ce duel. Je priai seulement Madame d'Hervin de me permettre de tout confier à Madame de Vernon, parce qu'elle était plus en état que personne de diriger l'opinion de la société sur cette affaire, et qu'elle avait de l'ascendant sur Monsieur de Fierville, qui paraissait le seul instruit de la vérité. Je demandai aussi à Thérèse de me donner une grande preuve d'amitié en consentant à ce que Léonce fût dépositaire de son secret. Je lui avouai mon sentiment pour lui, et à ce mot, Thérèse ne résista plus. C'était peut-être trop exigé d'elle, mais redoutant l'éclat de cette aventure à laquelle mon nom, dans les premiers temps, pouvait être malignement associé, il m'était impossible de me résoudre à courir ce hasard auprès de Léonce. Je crains, je n'ai que trop de raisons de craindre qu'il ne blâme ma conduite, mais je veux au moins qu'il en connaisse parfaitement tous les motifs. Il fut aussi décidé que j'emmènerais Madame d'Hervin le soir même à ma campagne, et que nous y resterions quelques jours ensemble sans voir personne, jusqu'à ce qu'elle eût des nouvelles de la famille de son mari. On vint me dire que Madame de Vernon me demandait. J'allais la recevoir dans mon cabinet. Il fallait, enfin, que cette journée si douloureuse se terminât par quelques sentiments consolateurs. Je l'ai souvent remarqué. Un soin bienfaisant prépare dans les peines de la vie un soulagement à notre âme lorsque ses forces sont prêtes à l'abandonner. Quelle affection Madame de Vernon me témoigna. Avec quel intérêt elle me questionna sur tous les détails de cet affreux événement. Elle-même me raconta ce qui avait été la première cause de notre malheur. Hier au soir, Madame du Marsay crut apercevoir dans la rue Monsieur de Serbellane enveloppé dans un manteau, et le raconta à Monsieur de Fierville. Celui-ci, dînant avec Monsieur d'Hervin à Saint-Germain, lui soutint que Monsieur de Serbellane n'était pas parti pour le Portugal hier matin comme il le croyait. Il paraît que Monsieur de Fierville le dit d'abord sans mauvaise intention, mais il le soutint ensuite malgré l'émotion qu'il remarqua chez Monsieur d'Hervin, parce que la crainte de faire du mal ne l'arrête point, et qu'il aime assez les brouilleries quand il peut y jouer un rôle. Monsieur d'Hervin voulut partir à l'instant même. Cet empressement piqua la curiosité de Monsieur de Fierville. Il lui demanda de l'accompagner. Monsieur d'Hervin passa d'abord chez lui et n'y trouva point sa femme. Il vint à ma porte. On la lui refusa en lui disant que j'étais à Bellerive. Mais Monsieur de Fierville prétendit qu'il avait aperçu, à travers une jalousie, ma femme de chambre qui travaillait, et suggéra lui-même à Monsieur d'Hervin, comme une bonne plaisanterie, d'aller secrètement chez Madame de Vernon et de donner un louis à son domestique pour qu'il lui prêtât sa redingote. Et vous ne fermerez pas votre porte à Monsieur de Fierville, dis-je à Madame de Vernon, avec indignation. Mon Dieu, je vous assure, me répondit-elle, qu'il ne se doutait pas des conséquences de ce qu'il faisait. Et n'est-ce pas assez, lui dis-je, de cette existence sans but, de cette vie sans devoir, de ce cœur sans bonté, de cette tête sans occupation? N'est-il pas le fléau de la société qu'il examine sans relâche et trouble avec malignité? Ah, dit Madame de Vernon, il faut être indulgent pour la vieillesse et pour l'oisiveté. Mais laissons cela pour nous occuper de vous. Et, me parlant alors de Léonce, elle vint elle-même au-devant de la confiance que je voulais avoir en elle. Combien elle me parut noble et sensible dans cet entretien. Elle m'avoua que depuis longtemps elle m'avait deviné, mais qu'elle avait voulu savoir si Léonce me préférait réellement à sa fille, et qu'en étant maintenant convaincue, elle ne ferait rien pour s'opposer aux sentiments qui l'attachaient à moi. Elle ne me cacha point que la rupture de ce mariage lui était pénible. Elle exprima ses regrets pour sa fille avec la plus touchante vérité. Néanmoins, sa tendre amitié la ramenant bientôt à ce qui me concernait, elle parut se consoler par l'espérance de mon bonheur. Je n'avais point d'expression assez vive pour lui témoigner ma reconnaissance. Je lui confiai mes craintes sur l'éclat qui venait de se passer. Je lui avouai que je redoutais l'impression qu'il pouvait faire sur Léonce. Elle m'écouta avec la plus grande attention, et me dit, après y avoir beaucoup pensé, « Il faut me charger de lui parler à son arrivée, avant qu'il ait appris tout ce qu'on ne manquera pas de dire contre vous. Il sait que je m'entends mieux qu'une autre à conjurer ces orages d'un jour. Je le tranquilliserai. « Quoi, lui dis-je, vous me défendrez auprès de lui avec ce talent sans égal que je vous ai vu quelquefois ?»« En doutez-vous, me répondit-elle. » Son accent me pénétra. « Je veux lui écrire, lui dis-je. Vous lui remettrez ma lettre. »« Pourquoi lui écrire ? » reprit-elle. « Vos chevaux sont prêts pour partir. La nuit est déjà venue. Vous n'auriez pas le temps de raconter toute cette histoire. » J'éprouve de la répugnance, lui répondis-je, à hasarder dans une lettre le secret de mon ami. Mais je manderai seulement à Léonce que je vous ai tout confié, qu'il peut tout savoir de vous. Et s'il vous témoigne le désir de venir à Bellerive, vous voudrez bien lui dire que je l'y recevrai. Oui, reprit-elle vivement, c'est mieux comme cela, vous avez raison. Je pris la plume, et je sentis une sorte de gêne en écrivant à Léonce en présence de Madame de Vernon. Mon billet fut plus court et plus froid que je ne l'aurais voulu. Tel qu'il était, je le remis à Madame de Vernon. Elle le lut attentivement, le cacheta, et me dit qu'il était à merveille, et que j'y conservais la dignité qui me convenait. C'était à elle, ajouta-t-elle, à suppléer à ce que je ne disais pas. Elle me rassura sur ce que je redoutais. Elle me parut convaincue qu'elle me justifierait entièrement auprès de Léonce. Elle en prit presque l'engagement, et, se plaisant à me raconter ce qu'elle lui dirait, elle me parla de moi sous cette forme indirecte, avec tant de grâce, de charme et même d'adresse, que je bénis le ciel d'avoir eu l'idée de lui confier ma défense. Non, il n'existe point de femme au monde qui sache faire valoir aussi habilement ce qu'elle aime. Elle seule connaît assez bien le monde pour rassurer Léonce sur l'éclat que peut avoir le funeste événement auquel mon nom est mêlé. Un sentiment indomptable d'amour et de fierté me rendrait impossible de m'excuser auprès de lui si son premier mouvement ne m'était pas favorable. Je finis en recommandant à Madame de Vernon de veiller sur la réputation de Thérèse, de ne nommer que moi dans le monde, de me livrer mille fois plutôt qu'elle, et de raconter l'histoire du duel, telle que nous avions décidé qu'on la ferait. Elle me le promit. Je l'embrassai, nous nous séparâmes. J'emmenai Thérèse et sa fille, et nous arrivâmes à 3 heures du matin à Bellerive. Quel voyage! Quelle journée, ma chère Louise! J'enverrai cette lettre à Paris demain, de peur que la nouvelle de la mort de M. d'Hervin ne vous arrive avant ma lettre et ne vous effraie pour moi. Ce soir, pendant que l'infortunée Thérèse avait désiré d'être seule, je me suis promenée sur le bord de la rivière. J'ai voulu me livrer au souvenir de Léonce. Mais je ne sais, une inquiétude que j'avais de la peine à m'avouer m'empêchait de m'abandonner au charme de cette idée. Je me rappelais quelques traits sévères de son caractère, ce qu'il en disait lui-même dans sa lettre à M. Barton. Ce n'était plus un amant, c'était un juge que je croyais voir dans Léonce, et des mouvements d'une fierté douloureuse s'emparaient de mon âme en pensant à lui. Enfin, me retraçant tout ce que Madame de Vernon m'avait dit pour me rassurer, je me suis répété qu'un trait de bonté, même indiscret, ne pouvait détruire les sentiments qu'il m'a témoignés, et je suis rentré chez moi plus tranquille. Hélas, Thérèse, l'infortunée Thérèse, est la seule à plaindre. Combien vous vous intéresserez à son malheur, bonne, excellente Louise, combien vous serez disposée à me pardonner ce que j'ai fait pour elle. Ce n'est pas vous qui seriez sévère envers les égarements même de la pitié. Lettre 33. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Bellerive, 9 juillet. Depuis 3 jours, le croirez-vous, ma chère Louise, je n'ai pas reçu une seule lettre de Madame de Vernon. Je n'ai pas entendu parler de Léonce. Peut-être n'est-il pas encore revenu de Mondeville. J'ai reçu seulement une lettre de Madame d'Artena, la tante de Madame de R., qui me mande que la mort de M. Dervin fait un bruit horrible dans Paris et que beaucoup de gens me blâment. Elle me demande de l'instruire de la vérité des faits pour qu'elle puisse me défendre. Et que m'importe ce qu'on dira de moi? C'est l'opinion de Léonce que je veux savoir. J'avais envie d'aller à Paris pour parler encore à Madame de Vernon. Je ne puis abandonner Thérèse. Elle a pris la fièvre avec un délire violent. Elle veut me voir à tous les instants. Hier, j'étais sortie de sa chambre pendant quelques minutes. Elle me demanda, et ne me trouvant point auprès d'elle, elle tomba dans un accès de pleurs qui me fit une peine profonde. Non, je ne la quitterai point. Lettre 34. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Bellerive, 10 juillet. Ce jour s'est encore passé sans nouvelles. Et cependant, Léon s'est arrivé. Un de mes gens, revenu ce soir de Paris, a rencontré un des siens. Je suis descendu 20 fois pendant le jour dans mon avenue, regardant si je ne voyais venir personne, reconnaissant de loin le facteur des lettres, courant d'abord au-devant de lui, mais bientôt, forcé de m'appuyer contre un arbre pour l'attendre. Les battements de cœur qui me saisissaient m'ôtaient la force de marcher. J'ai épuisé toutes les informations que l'on peut prendre sur les lettres, sur les moyens d'en recevoir, sur la possibilité d'en perdre. Je suis honteuse auprès de mes gens de ces innombrables questions. Je les ai cessées, n'en espérant plus rien. Il est clair que Madame de Vernon n'a pas été contente de Léonce, puisqu'elle ne m'a pas mandé à l'instant même ce qu'il lui a dit. Elle espère le ramener. Non, je ne lui écrirai point. Non, je n'entrerai avec lui dans aucune justification. Je n'irai point à Paris pour le prévenir, pour lui demander grâce. Je peux avoir eu tort selon son opinion, mais quand je lui confie mes motifs, mais quand je sollicite presque mon pardon par l'entremise de mon ami, enfin, quand je suis seule ici, dans la douleur, auprès du lit d'une infortunée qui succombe aux tourments du repentir et de l'amour, c'est à Léonce à venir me chercher. Lettre 35. Léonce à sa mère, Paris, 11 juillet. Je vous ai écrit, je crois, il y a 4 jours, de Mondeville, ma chère mère, une lettre que je désavoue entièrement. Vous aviez raison de choisir Mademoiselle de Vernon pour ma femme. Madame de Vernon m'a remis une lettre de vous décisive. Le contrat est signé d'hier au soir, et cependant je vis, vous ne pouvez rien désirer de plus. J'avais abrégé mon séjour à Mondeville, mais ce n'était pas dans ce but. À mon arrivée, j'apprends que M. de Serbellane a tué M. d'Hervin à la suite d'une querelle politique chez Mme d'Albémare. Tout Paris retentit de cet éclat scandaleux. Sur le champ de bataille même, M. de Serbellane a nommé Mme d'Albémare. Il était renfermé chez elle depuis 24 heures. Elle m'avait dit qu'il était parti pour le Portugal. Dans 8 jours, elle part pour Montpellier, d'où elle se rendra à Lisbonne, s'il n'est pas permis à M. de Serbellane de revenir en France pour l'épouser. Elle-même m'a écrit que Mme de Vernon m'apprendrait toute son histoire. Enfin, de quoi me plaindrais-je? Elle est libre, son caractère devait m'être connu. Ne m'aviez-vous pas dit, ma mère, qu'il ne s'accorderait jamais avec le mien? Pardonnez-moi de vous en avoir parlé, oubliez-la. Je le sais, il ne m'est pas permis d'en finir. L'existence que vous m'avez donnée vous appartient. J'ai éprouvé une émotion assez forte de tout ceci. Mais ce n'est pas en vain que votre sang m'a transmis le courage et la fierté. J'en aurai. Je serai dans 2 jours l'époux de Mathilde. Que dira Mme d'Albémare alors? Que pensera-t-elle? Mais qu'importe ce qu'elle pensera, ma mère, vous serez obéie. Le pauvre Barton s'est démis le bras en tombant de cheval. Il est obligé de rester à Mondeville encore quelque temps. Il s'est aussi, comme moi, cruellement trompé. Mais qu'en résulte-t-il pour lui? Rien. Adieu, ma mère. Lettre 36. Delphine à Mademoiselle d'Albémare, Bellerive, dans la nuit du 12 juillet. Je n'ai plus rien à vous dire sur moi. Aujourd'hui, à 6 heures du soir, mon sort a fini, et à 9, j'ai reçu la lettre qui me l'annonce. J'existe. Je crois que je ne mourrai pas. J'irai vous rejoindre dès que Mme d'Hervin sera rétablie. Il y a quelques heures que je me suis cru très mal, mais c'est une désillusion de la douleur. Souffrir, ce n'est pas mourir, c'est vivre. Lisez cette lettre. Je suis parvenue à vous la copier, mais il faut que j'en conserve l'original toujours sous mes yeux. Si je ne la voyais pas, je n'y croirais plus. J'irai trouver Léonce, j'irai lui dire que je l'aime encore. Et de ma vie, je ne dois le voir ni lui parler. Madame de Vernon à Madame d'Albémare. Ce 10 juillet. La peine que je vais vous causer, ma chère Delphine, m'est extrêmement douloureuse. J'ai remis votre billet à Léonce. Je lui ai parlé avec la plus grande vivacité. Mais il était déjà tellement prévenu par le bruit qu'a fait cette malheureuse aventure qu'il m'a été impossible de le ramener. Il prétend que vos caractères ne se conviennent point, que vous l'offenseriez sans cesse dans ce qu'il a de plus cher au monde, le respect pour l'opinion, et que vous vous rendriez malheureux mutuellement. Il avait d'ailleurs reçu une lettre de sa mère qui s'opposait formellement à ce qu'il vous épousât et le sommait de remplir ses engagements avec ma fille. J'ai voulu lui rendre à cet égard toute sa liberté, mais il a refusé, et comme il était décidé à ne point s'unir avec vous, il m'a paru naturel de revenir à nos anciens projets. Le contrat de Mathilde et de Léonce a donc été signé aujourd'hui, et après-demain, à 6 heures du soir, ils se marient. Je voudrais vous voir avant cet instant si solennel pour moi. Venez demain à Paris, et j'irai chez vous. Adieu, je suis bien affectée de votre chagrin. Sophie de Vernon. Cette lettre, qui m'est parvenue par la poste, devait, d'après la date, m'arriver avant-hier. Est-ce la fatalité ou Madame de Vernon voulait-elle s'épargner mes plaintes? Oh, j'en suis sûre, elle a froidement servi ma cause. Je me suis confiée dans son amitié pour moi, et j'avais tort. Son affection pour sa fille a sans doute affaibli toutes ces expressions à ma faveur. Mais Léonce, juste ciel, Léonce devait-il avoir besoin qu'on me défendît? La vérité ne lui suffisait-elle pas? Ce matin, je m'éveillais aux espérances des plus tendres affections du cœur. La nature semblait la même. Je pensais, j'aimais, j'étais moi. Et il se préparait à conduire une autre femme à l'autel. Il ne me donnait pas même un regret. Il me croyait indigne de son nom. Je voulais, ce soir même, aller trouver Léonce, oui, l'époux de Mathilde, lui demander la raison de cette cruauté, de ce mépris qu'il avait forcé de rompre nos liens. Mais quelle honte, grand Dieu, l'implorer, lui qui me croit dégradé dans l'opinion des hommes. Ah, que je meure, mais que je meure immobile à la place où j'ai reçu le coup mortel. Qu'avais-je donc fait, cependant, qui pût inspirer à Léonce cette haine subite contre moi? J'avais cédé à la pitié que m'inspirait l'amour de Thérèse. Ne la comprend-il donc pas, cette pitié? Se croit-il certain de n'en avoir jamais besoin? Ma condescendance peut être blâmée, je le sais, mais pouvais-je aimer comme j'aimais Léonce et n'avoir pas un cœur accessible à la compassion? L'amour et la bonté ne viennent-ils pas de la même source? Non, ce ne sont pas les motifs de mon action qu'ils jugent, c'est ce que les autres en ont dit. C'est leur opinion qu'ils consultent pour savoir ce qu'ils doivent penser de moi. Jamais ils ne m'auraient rendue heureuse, jamais. Ah, qu'ai-je dit, Louise? Aucune femme sur la terre ne l'aurait été comme moi. Je me serais conformée à son caractère. Je l'aurais consultée sur toutes mes actions. Il m'aimait, j'en suis sûre, sans cet éclat cruel. Ah, Thérèse, vous nous avez perdues toutes les deux. J'ai eu soin de lui cacher quelle était la cause de mon désespoir. Elle est assez malheureuse. Cependant, elle n'a point à se plaindre de son amant. C'est le sort qui les sépare. Mais Léonce, ce sort, c'est ta volonté, c'est toi. Louise, est-il sûr qu'il soit marié maintenant? Qui le sait, qui me le dira? Sans doute, ils le sont depuis plusieurs heures. Tout est irrévocable. J'irai pourtant à Paris demain. Je n'y verrai personne. Je ne verrai pas Madame de Vernon. Qu'a-t-elle à faire de moi? Mais je saurai l'heure, le lieu, les circonstances. Je veux me représenter l'événement qui sera désormais l'unique souvenir de ma vie. Je veux d'autres douleurs que cette lettre, d'autres pensées non moins déchirantes, mais qui soulagent un peu ma tête. Elle est là devant moi, cette lettre. Je la regarde sans cesse, comme si elle devait s'animer et répondre à mes avis de questions. Louise, vous aviez raison de craindre le monde pour votre malheureuse Delphine. Voilà mon âme bouleversée. Le calme n'y rentrera plus. La tempête a triomphé de moi. Vous qui m'aimez encore, il faut que vous me le pardonniez. Mais je crois que je ne peux plus vivre. J'ai horreur de la société, et la solitude me rend insensée. Il n'y a plus de place sur la terre où je puisse me reposer. Lettre 37. Delphine à Mademoiselle d'Albémare, Paris, le 13 juillet à minuit. Louise, hier il n'était pas marié, non, il ne l'était pas encore. Juste ciel, seul maintenant, abandonné de tout ce que j'aimais, vous dirai-je ce que mon désespoir peut à peine me persuader encore. Écoutez-moi, si je me rappelle ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ma raison n'est pas encore entièrement égarée. Il me fut impossible de rester plus longtemps à Bellerive. L'inaction du corps, quand l'âme est agitée, est un supplice que la nature ne peut supporter. Je montai en voiture. J'ordonnai qu'on me conduisît à Paris sans aucun projet, sans aucune idée qu'il me fût possible de m'avouer. Je sentais encore, non de l'espérance, mais quelque chose qui différait cependant de l'impression qu'une nouvelle certaine fait éprouver. À force de réfléchir, mes idées s'étaient obscurcies et j'étais parvenu à douter. Je contemplais tous les objets dans le chemin avec ce regard fixe qui ne permet de rien distinguer. J'aperçus cependant un pauvre vieillard sur la route. Je fis arrêter ma voiture pour lui donner de l'argent. Ce mouvement n'appartenait point à la bienfaisance. Il était inspiré par l'idée confuse qu'une action charitable détournerait de moi le malheur qui me menaçait. Je frémis en découvrant quelques restes d'espoir dans mon âme, en sentant que je n'étais pas encore au dernier terme de la douleur. Je tombai à genoux dans ma voiture, sans avoir la force de prier, et j'arrivais dans une anxiété inexprimable. Antoine était chez moi. Je n'osais lui faire une question directe, mais je lui dis, sur Madame de Vernon, un mot qui devait l'amener à me parler d'elle. « Sans doute, me répondit-il, Madame vient ici pour assister au mariage de Mademoiselle Mathilde avec Monsieur de Mandeville. C'est à 6 heures à Sainte-Marie, près de Chaillot, à l'extrémité du faubourg, dans l'église du couvent où Mademoiselle de Vernon a été élevée. Il n'est pas 5 heures. Madame a bien le temps de faire sa toilette. » Oh, Louise, il n'était pas encore son époux. J'étais à 50 pas de lui. Je pouvais aller me jeter en travers de la porte, et sa voiture aurait passé sur mon cœur avant que le mariage s'accomplît. Non, jamais une heure n'a fait naître tant de pensées diverses, tant de projets adoptés et rejetés à l'instant. Je me suis cru 20 fois décidé à tout hasarder pour lui parler encore, avant qu'il eût prononcé le serment éternel. Et 20 fois, la fierté, la timidité glacèrent mes mouvements et renfermèrent en moi-même la passion qui me consumait. Je me disais, Léon, ce que mon imprudence a détaché de moi, que pensera-t-il d'une action inconsidérée? Faut-il le voir marcher à l'autel après avoir foulé ma prière? Cette réflexion m'arrêtait, mais le souvenir des jours où il m'avait aimé la combattait bientôt avec force. Pendant ces incertitudes, je voyais l'heure s'écouler, et le temps décidait pour moi de l'irrévocable destinée. Je ne sais par quel mouvement je pris tout à coup un parti dont l'idée me donna d'abord quelque soulagement. Je résolus d'aller moi-même, couverte d'un voile, à cette église où il devait se marier, et d'être ainsi témoin de la cérémonie. Je ne comprends pas encore quel était mon projet. Je n'avais pas celui de m'opposer au mariage, d'oser faire un tel scandale. J'espérais, je crois, que je mourrais. Ou plutôt, la réflexion ne me guidait pas. La douleur me poursuivait et je fuyais devant elle. Je sortis seule et tellement enveloppée d'un voile et d'un vêtement blanc qu'on ne me reconnut point à ma porte. Je marchais dans la rue rapidement. Je ne sais d'où me venait tant de force, mais il y avait sans doute dans ma démarche quelque chose de convulsif, car je voyais ceux qui passaient s'arrêter en me regardant. Une agitation intérieure me soutenait. Je craignais de ne pas arriver à temps. J'étais pressée de mon supplice. Il me semblait qu'en atteignant au plus haut degré de la souffrance, quelque chose se briserait dans ma tête ou dans mon cœur, et qu'alors j'oublierais tout. J'entrai dans l'église, sans avoir repris ma raison. La fraîcheur du lieu me calma pendant quelques instants. Il y avait très peu de monde. Je pus choisir la place que je voulais, et je m'assis derrière une colonne qui me dérobait au regard. Mais cependant, hélas, me permettait de tout voir. J'aperçus quelques femmes âgées dans le fond de l'église qui priaient avec recueillement, et comparant le calme de leur situation avec la violence de la mienne, je haïssais ma jeunesse qui donnait à mon sang cette activité de malheur. Des instruments de fête se firent entendre en dehors de l'église. Ils annonçaient l'arrivée de Léonce. Les orgues bientôt aussi la célébrèrent. et mon cœur seul mêlait le désespoir à tant de joie. Cette musique produisit sur mes sens un effet surnaturel. Dans quelque lieu que j'entendisse l'air que l'on a joué, il serait pour moi comme un chant de mort. Je m'abandonnai en l'écoutant à des torrents de larmes, et cette émotion profonde fut un secours du ciel. J'éprouvai tout d'un coup un mouvement d'exaltation qui soutint mon âme abattue. La pensée de l'être suprême s'empara de moi. Je sentis qu'elle me relevait à mes propres yeux. « Non, me dis-je à moi-même, je ne suis point coupable. Et lorsque tout bonheur m'est enlevé, le refuge de ma conscience, le secours d'une providence miséricordieuse me restera. Je vivrai de larmes, mais aucun remords ne pouvant s'y mêler, je ne verrai dans la mort que le repos. Ah, que j'ai besoin de ce repos. Je n'avais pas encore osé lever les yeux, mais quand les sons eurent cessé, cette douleur déchirante qu'ils avaient un moment suspendue me saisit de nouveau. Je vis Léonce à la clarté des flambeaux. Pour la dernière fois, sans doute, je le vis. Il donnait la main à Mathilde. Elle était belle car elle était heureuse. Et moi, mon visage couvert de pleurs, ne pouvait inspirer que de la pitié. Léonce, est-ce encore une illusion de mon cœur? Léonce me parut plongée dans la tristesse. Ses traits me semblaient altérés, et ses regards erraient dans l'église comme s'il eût voulu éviter ceux de Mathilde. Le prêtre commença ses exhortations, et lorsqu'il se tourna vers Léonce pour lui adresser des conseils sur le sentiment qu'il devait à sa femme, Léonce soupira profondément et sa tête se baissa sur sa poitrine. Vous le dirai-je, un instant après je crus le voir qui cherchait dans l'ombre ma figure appuyée sur la colonne, et je prononçai dans mon égarement ces mots d'une voix basse. C'était à Delphine Léonce que cette affection était promise. Oui, Léonce la devait à Delphine, elle n'a point cessé de la mériter. Il se troubla visiblement, quoiqu'il ne pût m'entendre. Madame de Vernon se leva pour lui parler. Elle se mit entre lui et moi. Il s'avança cependant encore pour regarder la colonne. Son ombre s'y peignit encore une fois. J'entendis la question solennelle qui devait décider de moi. Un frissonnement glacé me saisit. Je me penchai en avant, j'étendis la main, mais bientôt, épouvanté de la sainteté du lieu, du silence universel, de l'éclat que ferait ma présence, je me retirai par un dernier effort et j'allai tomber sans connaissance derrière la colonne. Je ne sais ce qui s'est passé depuis. Je n'ai point entendu le « oui » fatal. Le froid bienfaisant de la mort m'a sauvé de cette angoisse. À 10 heures du soir, le gardien de l'église, au moment où il allait la fermer, s'est aperçu qu'une femme était étendue sur le marbre. Il m'a relevée, il m'a portée à l'air. Enfin, il m'a rendu cette fièvre douloureuse qu'on appelle la vie. Je me suis fait conduire chez moi. J'ai trouvé mes gens inquiets, et de quoi, juste ciel? Que ne pleurait-il de me revoir? Après 3 heures d'une immobilité stupide, j'ai retrouvé la force de vous écrire. Louise, ma seule amie, rappelez-moi près de vous. Ils sont tous heureux ici. Qu'ai-je à faire dans ce pays de joie? Peut-être les lieux que vous habitez ranimeront-ils en moi les sentiments que j'y ai longtemps éprouvés. Une année ne peut-elle se retrancher de la vie? Mais un jour, un seul jour. Ah, c'est celui-là qui ne s'effacera point. Lettre 38. Léonce à M. Barton. Paris, ce 14 juillet. Je vous ai mandé ma résolution. Sachez à présent que je suis mariée. Oui, depuis hier, à Mathilde, je suis mariée. Je vous ai épargné tout ce que j'ai souffert. Pourquoi mêler à vos douleurs les inquiétudes de l'amitié? Mais il faut cependant, si je ne veux pas devenir fou, que je vous confie une seule chose. Et que direz-vous de moi si ce secret impossible à garder est une apparition, un fantôme, une chimère? Voilà ce qu'est devenu votre misérable amie. Voilà dans quel état elle m'a jeté par sa perfidie. Je savais hier que Madame d'Albémare était à Bellerive, s'occupant de son départ pour Lisbonne, je le savais. Eh bien, au milieu de la cérémonie imposante qui, pour jamais, disposait de mon sort, dans cette église, où la fierté, le devoir, la volonté de ma mère m'ont entraîné, j'ai cru voir, derrière une colonne, Madame d'Albémare, couverte d'un voile blanc. Mais sa figure s'offrit à mes regards, si pâle et si changée, que c'est ainsi que son image devrait m'apparaître après sa mort. Plus je fixais les yeux sur cette colonne, plus mon illusion devenait forte, et je crus que mon nom et le sien avaient été prononcés par sa voix que j'entends souvent, il est vrai, quand je suis seule. Madame de Vernon s'approcha de moi et me rappela doucement à ce que je devais à Mathilde. Je me levai pour prononcer le serment irrévocable. À l'instant même, je vis cette même ombre s'avancer, étendre la main, et mon trouble fut tel qu'un nuage couvrit mes yeux. Je fis cependant un nouvel effort pour examiner cette colonne dont j'avais cru voir sortir l'image persécutrice de ma vie. Mais je n'aperçus plus rien. L'effet des lumières dans cette vaste église et mon imagination agitée avaient sans doute créé cette chimère. Mon silence et mon trouble cependant embarrassaient Mathilde. Je me hâtais de dire oui comme dans l'égarement d'un rêve. Mon âme tout entière était ailleurs. N'importe, le lien est serré, je suis l'époux de Mathilde. Quand il serait vrai que Delphine m'aurait aimé quelques instants, elle a senti, je n'en puis douter, qu'après l'éclat de son aventure elle serait perdue si elle n'épousait pas Monsieur de Serbellane. Mais si je savais au moins qu'elle m'a regretté, indigne faiblesse. Delphine m'a trompé, la nature n'a plus rien de vrai. Vous saurez une fois si je puis raconter ces derniers jours, sans tomber dans des accès de rage et de douleur, vous saurez une fois tout ce qui s'est passé. Mais ce fantôme blanc hier, qu'était-il? Je le vois encore. Ah, mon ami, quand vous serez guéri, venez. J'ai plus besoin de vous que dans les débiles jours de mon enfance. Ma raison est sans force, et je n'ai plus d'un homme que la violence des passions.